Donc oui, je vais essayer de. Enfin, le lien est vraiment facile à faire avec l'intervention d'Hélène Canquin. Donc notamment à travers l'exemple de Mathilde Franziska Haneke. Donc Hélène Canquin a fait allusion à un phénomène très intéressant qui se produit en Allemagne à l'occasion des révolutions de 1848-49. C'est la publication de journaux politiquement engagés par des femmes et pour des femmes. Tous ces journaux, donc, dont le Die Frauenzeitung de Mathilde Haneke, sont relativement éphémères, à l'exception du journal du même titre, Die Frauenzeitung, qui a été, lui, fondé par Louise Otto en 1849. Louise Otto, dont on a aussi entendu parler déjà dans l'exposé précédent, était à ce moment-là, donc en 1848, une jeune écrivaine saxonne, dont les poèmes, les romans et les articles avaient déjà rencontré un certain succès dans les milieux démocrates et socialistes de l'époque. Malgré la contre-révolution et la censure, Die Frauenzeitung, donc à partir de 1849, joue un rôle important dans l'opposition, au moins à l'échelle du royaume de Saxe, au point que le Parlement saxon a cherché à faire taire Louise Otto par une loi sur mesure en 1851 qui stipulait que seules les personnes masculines pouvaient être responsables dans le journal. Louise Otto parvint à contourner la loi et à faire perdurer son journal jusqu'en 1853. Et puis, finalement, contrainte de renoncer, elle se consacra de nouveau à l'écriture romanesque et poétique. Et pendant la douzaine d'années qui suivit, aucune Allemande n'assura plus la direction et la rédaction d'un périodique. Et comme donc à ce moment-là, comme dans les autres pays d'Europe et encore plus qu'ailleurs, la presse était redevenue en Allemagne le bastion masculin qu'elle avait toujours été auparavant. Ainsi, lorsqu'à la fin de l'année 1865, Louise Otto, qui est devenue entre-temps la veuve Otto Peters, donc lorsqu'elle réunit quelques femmes autour d'elle à Leipzig pour rédiger le journal Neue Bahnen, l'événement est certes discret, puisque le premier tirage est de 600 exemplaires, mais il n'est pas anodin. Pour nombre de contemporains, cette initiative a probablement un parfum ou un relent révolutionnaire. Voir des femmes oser ainsi s'emparer d'une parole publique rappelle forcément les précédents des années 1848-49 et ravive le souvenir du rôle qu'avait alors joué Louise Otto. Les temps ont changé cependant, et même si beaucoup de contemporains aspirent au renouveau, les années 1860 n'ont plus rien à voir avec le bouillonnement intellectuel et politique des années 1840. D'ailleurs, ni Louise Otto Peters ni ses compagnes ne semblent vouloir renouer avec le passé. Loin des discours nostalgiques, elles proclament au contraire leur volonté de rupture et de modernité, et le titre du journal le dit bien, puisque ses rédactrices veulent ouvrir de nouvelles voies pour les femmes et engagent leurs lectrices à les suivre. Donc, quelles sont ces nouvelles voies proposées aux femmes pour participer au grand travail du siècle, comme l'écrit le premier numéro du journal ? L'étude des premières années de Neue Bahnen jusqu'à l'avènement de l'Empire permet d'appréhender la spécificité de ce premier féminisme allemand postérieur à 1848. Donc là, pour le coup, j'emploierai le terme féminisme par commodité, sachant qu'il est encore anachronique. Neue Bahnen est le premier journal et le seul journal fait par des femmes, donc depuis Die Frauenzeitung, et ce jusqu'à la fondation d'un autre journal, Der Frauenanwalt, en 1870. Neue Bahnen s'affirme donc comme un lieu d'expérimentation assez unique. Ces rédactrices affirment leur désir de se joindre au mouvement de leur temps, tout en proclamant leur indépendance vis-à-vis des partis politiques et en étant très critiques vis-à-vis de leur société. Elles sont conscientes, et pour cause, des échecs subis par les femmes de 1848, et elles n'emploient que rarement et discrètement les termes de liberté et d'égalité. Mais elles veulent en même temps prouver leur capacité d'autonomie. Elles sont partagées entre la révolte, qui les pousse à certaines audaces, et la prudence, indispensable à leur succès. Elles sont donc à la recherche des meilleures formulations et des stratégies les plus efficaces pour jouer un rôle dans l'espace public. Donc, j'essaierai ici de résumer les principales stratégies qui sont mises en œuvre dans le journal Neue Bahnen. Donc, d'une part, d'emblée, Neue Bahnen s'inscrit dans une perspective inédite, puisqu'il accompagne la naissance d'un mouvement collectif de revendications en faveur des femmes, qui s'organise à une double échelle à partir de Leipzig. En mars 1865, Louise Otto initie une association culturelle pour les femmes de sa ville et des environs. Et à l'automne suivant, elle fonde une association à vocation nationale, dont on a entendu parler tout à l'heure, le Allgemeiner Deutscher Frauenverein, donc que je résumerai par le sigle ADF. Donc, association dont le nom fait écho au Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein, l'ADAV en français, fondée par Ferdinand Lassalle à Leipzig 2 ans auparavant. Le mouvement des travailleurs qui prend forme depuis le début des années 1860 apparaît donc bien comme un modèle. Donc j'ai essayé de le suggérer par ma chronologie extrêmement simplifiée, mais qui essaye de mettre en évidence ce phénomène. Neue Bahnen est créé comme une œuvre collective et il aura d'ailleurs toujours deux rédactrices en chef, d'abord Louise Otto et Jenny Hirsch, et puis Louise Otto et Auguste Schmidt. Il s'affiche comme l'organe de l'ADF, mais il sert aussi de publication pour le Frauenbildungsverein de Leipzig. Le journal est ainsi la principale source dont nous disposons pour l'étude de ce mouvement des femmes initié par Louise Otto, et les rédactrices insistent sur le lien avec les organisations de travailleurs, en reprenant deux mots d'ordre. D'une part, le principe de Selbsthilfe, et d'autre part, la revendication du travail comme moyen de dignité et d'indépendance. Donc, ce sera le premier point de l'exposé. Enfin, donc deuxième chose, ce qui se produit à Leipzig n'est pas un phénomène isolé. Là aussi, j'ai essayé de le suggérer un petit peu dans ma brève chronologie. Dans d'autres États allemands, d'autres initiatives voient le jour pour faire évoluer d'une façon ou d'une autre le statut des femmes. Et dans les pays voisins également, que ce soit en Grande-Bretagne, en France ou en Suisse, les années 1860 sont celles d'un retour des femmes sur la scène publique, avec un renouvellement des modes d'engagement et des revendications. Si les rédactrices de Neue Bahnen sont attentives à ce qui se passe à l'étranger et donnent en exemple les conquêtes de pionnières européennes ou américaines dans divers domaines, elles n'oublient jamais pour autant de se présenter comme des Allemandes, fidèles à des valeurs qu'elles définissent comme nationales et œuvrant pour l'avenir de leur patrie. Donc le deuxième point que je développerai concernera la tentative des rédactrices de Neue Bahnen pour faire de leur journal une tribune de l'idée nationale et un instrument pour intégrer les femmes à la nation allemande en devenir. Donc Neue Bahnen a été vraiment conçu comme un instrument permettant d'intégrer les femmes aux mouvements sociaux de leur temps, et en premier lieu donc sur les pas des travailleurs en train de s'émanciper. Au cours des années 1860, les aspirations au changement social et politique sont largement portées par les associations ouvrières, qui appellent à l'émancipation des travailleurs par l'union et par l'instruction. Elles reprennent à leur compte le principe de Selbsthilfe, qui est développé à l'origine par le libéral Schulze-Delitzsch, et ce principe donc devient un slogan d'auto-organisation, destiné à prouver la capacité des travailleurs à se gouverner eux-mêmes et donc à s'intégrer au corps des citoyens. Ces associations trouvent un terrain de prédilection en Saxe, donc un État qui connaît une industrialisation relativement précoce et qui bénéficie aussi d'une certaine libéralisation politique. Donc, de nombreuses associations culturelles de travailleurs, Arbeiterbildungsvereine, représentent ce premier niveau d'organisation des travailleurs, pour donc travailleurs vraiment ici au sens large, ça concerne aussi bien des artisans, des ouvriers et des petits entrepreneurs. Donc, tous ces travailleurs qui désirent accéder à une culture réservée à l'élite bourgeoise et créer en même temps toutes sortes de réseaux de solidarité et des lieux de réflexion politique. Ainsi, donc, lorsqu'en 1865, Louise Otto estime que le moment est venu où les femmes peuvent de nouveau tenter de s'engager publiquement pour transformer elles-mêmes leurs conditions, elle prend modèle sur ce mouvement ouvrier en pleine expansion. Elle-même, de par ses activités passées, fréquente les milieux sociaux démocrates de sa ville et elle suit probablement de près la fondation d'un Arbeiterbildungsverein à Leipzig en février 1865. Le mois suivant, elle fonde un Frauenbildungsverein en compagnie de quelques femmes issues de la bourgeoisie locale. L'association propose deux fois par mois des conférences aux thèmes variés qui ont donc pour but général de faire accéder les femmes à une culture générale en principe réservée aux hommes, mais aussi de valoriser le rôle des femmes dans l'histoire et d'inviter l'auditoire à réfléchir aux événements contemporains. Le journal Neue Bahnen est donc non seulement l'organe de l'ADF, mais il est aussi au service du Frauenbildungsverein de Leipzig et des autres associations en Allemagne. Donc, les activités de ces associations sont annoncées par le journal en rend compte. Il cherche aussi à susciter la création d'autres groupes de femmes et à tisser des liens entre ceux qui existent. Le journal propose aussi de nombreux articles littéraires et historiques qui complètent les objectifs du Frauenbildungsverein. Et enfin, donc, les rédactrices de Neue Bahnen sont amenées à plusieurs reprises à défendre la spécificité du Frauenbildungsverein et de l'ADF, à savoir le choix de la non-mixité. Cette revendication de la non-mixité est alors très audacieuse et elle semble d'ailleurs être limitée à quelques-unes des associations de femmes qui vont essaimer dans ces années-là dans plusieurs villes allemandes. Louise Otto-Peters et ses compagnes se voient d'ailleurs qualifiées de Männerfeindlich, y compris par des femmes, pour avoir choisi donc de refuser les hommes à leur côté. Quelques articles de Neue Bahnen tentent de légitimer la non-mixité en invoquant donc ce principe de Selbsthilfe. L'idée est d'établir un parallèle avec les travailleurs qui se réunissent entre eux pour éprouver leurs forces et défendre leurs intérêts propres, donc de manière assez logique. Et les rédactrices osent aussi dénoncer publiquement la domination masculine en expliquant que la présence d'hommes entraîne immanquablement des pratiques d'oppression, le monopole de la parole par les hommes, des moqueries envers les femmes, l'autocensure des femmes, et que dans l'état actuel des choses, les hommes ne sauraient représenter des intérêts qui s'opposent aux leurs. La création du journal Neue Bahnen est en elle-même un élément clé de la stratégie de Selbsthilfe, puisqu'ainsi, donc, Louise Otto-Peters et les autres rédactrices s'affranchissent de la dépendance envers les autres journaux pour médiatiser leurs initiatives, et elles proclament aussi, bien sûr, la capacité des femmes à utiliser la presse pour s'imposer dans la sphère publique. La loi en vigueur en Saxe, donc toujours cette fameuse loi qui avait été faite pour Louise Otto, qui est d'ailleurs surnommée la Lex Otto, oblige donc les rédactrices de Neue Bahnen à recourir à un homme sympathisant de leur cause pour assumer la responsabilité de la rédaction. Toutefois, ce sont les noms des rédactrices en chef qui figurent en première page et les 8 pages de textes denses qui paraissent 2 fois par mois sont presque entièrement rédigées par des femmes. Peut-être juste ici une petite parenthèse pour préciser très, très généralement le profil de ces rédactrices. Donc, ce sont essentiellement des femmes qui sont célibataires ou veuves, qui sont issues des classes moyennes, petites moyennes bourgeoisies, ce qu'on pourrait appeler Bildungsbürgertum, essentiellement à Leipzig, mais il y en a aussi qui participent en écrivant d'autres parties de l'Allemagne. Et ce sont beaucoup de femmes qui sont dotées d'une certaine autonomie matérielle, soit en tant que femmes de lettres, soit en tant qu'enseignantes, ou bien les deux. Donc, je reviens au principe de Selbsthilfe, donc qui est une revendication assez radicale, puisqu'à cette époque, les Allemandes ont un statut social de dépendante et l'individualité des femmes est niée. Mais ce terme de Selbsthilfe permet aussi de proposer une alternative respectable à la notion d'émancipation. Les rédactrices de Neue Bahnen sont en effet très soucieuses de se distinguer des émancipées, en faisant référence à ce qui s'est produit dans les années 1830 et 1840, comme on le voit dès l'adresse aux lectrices du premier numéro, donc, que j'ai photocopié. Donc, vous verrez que dans l'extrait, donc, il est question de celles qui étaient tellement courroucées contre leur destinée individuelle, écrit Louise Otto, que de manière très égoïste et inconsciente, hein, c'est ce qui est suggéré dans le texte, elles se sont lancées billes en tête sur ce chemin sur lequel le mot émancipation était davantage un signal de danger qu'un cri de victoire. Donc là, il y a une condamnation avec beaucoup de choses à lire entre les lignes. Sans nommer personne, hein, ce sont des figures comme par exemple Louise Aston, qui dans les années 1840 et notamment en 1848 avait employé le terme émancipation comme revendication d'une liberté égale, hein, pleine et entière pour les deux sexes. Et comme l'avait d'ailleurs déjà fait Louise Otto en 1849, au début des années 50, dans son premier journal, de nouveau, hein, les rédactrices de Neue Bahnen condamnent régulièrement ce qu'elles considèrent comme de folles prétentions appartenant au passé, afin de mieux rassurer leur électorat sur leurs propres revendications. Et elles-mêmes se présentent comme des femmes raisonnables, respectueuses de la différence des sexes, soucieuses seulement de redéfinir la féminité, donc ce qu'elles appellent la féminité, en conformité aux besoins de l'époque, en élargissant les champs d'action des femmes. Le journal affirme ainsi promouvoir ce qu'il appelle la vraie féminité, ce qui est le leitmotiv de très nombreux articles, et qui signifie à la fois rejeter la conception ancienne du rôle des femmes, mais également les expériences jugées déviantes des femmes qui ont pensé nier leur spécificité. À plusieurs reprises, Louise Otto affirme par exemple que la mission de la femme, hein, puisqu'elle parle de la femme, est de propager le beau, le bien et l'amour autour d'elle. De nombreux auteurs font l'éloge de la mère de famille, de la ménagère, de l'éducatrice. Le principe de complémentarité entre hommes et femmes reste intangible, et peu de textes, d'ailleurs, demandent que les femmes relèvent du droit commun ou qu'elles bénéficient de davantage de droits civils. Seulement 2 ou 3 articles se distinguent puisqu'ils remettent indirectement en cause les catégories de genre, en questionnant sur les termes mêmes de féminin, par exemple, de féminité, et sur leurs fonctions normatives. Mais ces textes, enfin, vraiment très intéressants, restent complètement exceptionnels par rapport à la ligne générale du journal. Les rares fois où le terme « émancipation » est employé de façon positive dans Neue Bahnen, il est mis en corrélation avec le mot « travail ». Les rédactrices garantissent ainsi la moralité de leur intention en se concentrant essentiellement sur le travail, donc salarié, des femmes, présenté à la fois comme le moyen et le but de la Selbsthilfe. Numéro après numéro, d'innombrables articles, des entrefilés, des rubriques de tous ordres, ont pour thème la promotion du travail des femmes, en conformité avec l'objectif numéro 1 de l'ADF. Le journal affirme donc que le nouveau mouvement des femmes allemandes fait œuvre d'utilité publique en proposant de résoudre cette question du travail des femmes. À ce moment-là, dans les années 60, et ce n'est pas du tout une particularité allemande, nombre de contemporains s'interrogent en effet donc sur les moyens de fournir des revenus aux filles et aux veuves des classes moyennes, mais aussi sur l'opportunité de recruter des femmes pour favoriser l'essor du secteur tertiaire qui se produit à ce moment-là, et aussi sur les contradictions flagrantes entre, d'un côté, les restrictions qui pèsent sur l'emploi et l'instruction des femmes, et d'un autre côté, les prescriptions d'un libéralisme croissant. Neue Bahnen informe ainsi de ce qui se produit à l'étranger concernant la formation des femmes et leur conquête de nouvelles professions. Le journal répercute aussi les diverses pétitions de l'ADF qui demandent aux gouvernements allemands d'admettre les femmes dans de nouveaux emplois. Et le journal argumente enfin en faveur de l'égalité des droits en employant le terme « Gleichberechtigung » plutôt que « Gleichheit » ou autre terme, face à la nécessité de gagner sa vie. Dans cette campagne, les rédactrices de Neue Bahnen ne peuvent guère compter que sur leurs propres forces, puisque, rapidement, elles doivent perdre leurs illusions quant au soutien qu'elles espéraient trouver dans les milieux démocrates et socialistes, en particulier à l'échelle du mouvement ouvrier. En effet, la création de Neue Bahnen coïncide avec le rejet vigoureux du travail des femmes par l'Association générale allemande des travailleurs de Ferdinand Lassalle, association sans doute désireuse de nier très vite tout lien avec l'Association générale allemande des femmes. Dans Neue Bahnen, un entrefilé anonyme accuse alors les Lassalléens de trahir leur grande proclamation en faveur de la liberté et du progrès et de révéler leur caractère tyrannique en refusant ses droits naturels à la moitié de l'humanité. Ces déclarations indignées et amères vont se reproduire plusieurs fois dans les colonnes de Neue Bahnen au rythme des proclamations successives des organisations ouvrières allemandes et internationales qui condamnent la concurrence des salaires féminins et renvoient les femmes à leur foyer. Finalement, donc après de multiples exemples, c'est en 1869, avec la fondation du Parti social-démocrate, que ce processus se trouve couronné, pour ainsi dire, et puisque le programme adopté par ces socialistes signale une nouvelle fin de non-recevoir enfin envers les revendications des femmes. Là encore, l'événement suscite l'indignation de plusieurs rédactrices de Neue Bahnen. L'une d'elles, Louise Büchner, fervente démocrate, donc invective avec véhémence les participations du congrès d'Eisenach. Elle dit, de façon très ironique, « C'est effectivement un programme très prometteur pour l'avenir que le travailleur libre écrit ici sur sa banderole. Une interprétation étonnante du principe de la fraternité qui aspire à unir tous ceux qui vivent de la sueur de leur travail. Ce frère dit à sa sœur, « À moi la liberté, à toi la servitude. » À moi tous les avantages d'une époque humaine et éclairée, à toi tous les effrois et les obstacles d'institutions médiévales. » Donc voilà un exemple des réactions vraiment furieuses des rédactrices, mais qui n'ont aucune résonance. Jamais le dialogue n'est noué de manière publique, en tout cas dans la presse par exemple, avec les organisations de travailleurs qui les rejettent ainsi. Elles se trouvent donc complètement marginalisées par ceux dont elles partagent pourtant les idées et les combats. Et elles sont contraintes à une posture critique extérieure, tant le décalage est immense entre les grandes déclarations de principe des démocrates et leurs positions concrètes concernant les femmes. Finalement, le journal Neue Bahnen et l'association ADF se retrouvent ainsi rejetées du côté des organisations politiques plus modérées. Elles se retrouvent coupées des femmes des classes populaires et accusées durablement de servir les intérêts de la bourgeoisie capitaliste. Alors, donc, elles ont tenté d'à nombreuses reprises, d'établir des liens le plus étroits possible avec le mouvement socialiste. Tous ces débats se produisent dans le cadre d'un journal qui se veut apolitique. Mais pour autant, donc, l'espèce de paradoxe qui apparaît, c'est que malgré cet apolitisme, c'est un journal qui se veut évidemment citoyen. Neue Bahnhofs prétend se consacrer essentiellement à la défense du travail salarié des femmes et s'en tient donc à la ligne de l'ADF qui écarte la question de leurs droits politiques. D'ailleurs, en tant que journal d'association, il n'est pas habilité à parler de politique. Les principaux commentaires politiques, toujours très vagues, concernent les guerres de 1866 et de 1870, ainsi que quelques événements de politique étrangère. Cependant, le journal appelle bel et bien les femmes à s'impliquer dans la vie publique et à se forger une opinion sur les débats et les mouvements politiques du moment. Il a pour objectif de transformer les femmes en citoyennes, alors même qu'elles sont privées des droits civiques. La relation des femmes aux politiques est ainsi présentée dans le cadre d'une redéfinition de la féminité comme un ensemble de droits et de devoirs particuliers. Ainsi, à la différence, par exemple, de certaines féministes françaises de la même époque, qui argumentent en faveur d'une politisation de la sphère dite privée, les Allemandes de Neue Bahnen, elles, envisagent plutôt une privatisation du politique, en reprenant l'approche privilégiée par Louise Otto déjà dans les années 1848. L'idée générale, qu'on trouve d'ailleurs exprimée aussi dès l'adresse aux lectrices du premier numéro, est d'encourager les lectrices à servir la société et l'humanité de la même manière qu'elles servent leur foyer et légitimer ainsi l'agrandissement du cercle d'action ouvert aux femmes. La notion de devoir, et il faut ici comprendre devoir naturel, lié au sexe, est donc intimement liée à celle de droit, comme le rappelle un article de 1866 que je cite brièvement. Ce n'est pas seulement un droit pour les femmes de se préoccuper des questions politiques, religieuses et sociales qui sont toujours liées et ne peuvent être résolues séparément les unes des autres. C'est plus encore un devoir sacré pour elles que de s'efforcer de le comprendre, car la situation de l'État et de la société ne pourra jamais être fondamentalement améliorée aussi longtemps que l'on en pourra compter sur la participation des femmes à cette amélioration. Paradoxalement, le sujet des droits politiques des femmes revient assez souvent dans les pages du journal. Les rédactrices sont très prudentes. Elles l'introduisent de façon toujours détournée, généralement dans des entrefilés ou des articles qui ne sont pas signés, qui reproduisent et commentent des propos tenus par des hommes ou bien des choses qui se passent à l'étranger, donc dans le domaine de l'égalité civique. Et au prix de multiples précautions oratoires, ces textes s'indignent de la non-représentation des femmes et de l'injustice, par exemple, de l'expression « suffrage universel ». Mais ces textes concluent toujours sagement en estimant prématurée la revendication de droits politiques pour les Allemandes. La particularité allemande est toujours mise en avant, d'autant que c'est toujours la question nationale qui amène les rédactrices à proclamer l'importance de la politique pour les femmes. Ainsi, on le voit au début de la guerre austro-prussienne de 1866, Louise Otto invite les femmes à se faire les gardiennes du sentiment de l'unité allemande partout où l'occasion en est offerte, que ce soit dans les associations ou dans la famille. La nation occupe donc une place vraiment centrale dans le discours transmis par le journal, à la fois comme moyen d'intégration, mais comme on le comprend à la lecture des articles, comme obstacle aussi à l'émancipation. Le journal Neue Bahnen est dédié aux femmes allemandes et se place ainsi sous la double invocation de l'identité de genre et de l'identité nationale, les deux étant intimement liés. Les rédactrices de Neue Bahnen expriment régulièrement leur soutien au projet d'unité nationale. Elles s'invitent de cette manière dans l'un des principaux débats qui agitent l'Allemagne entre 1866 et 1870. Sans jamais prendre position sur les contours géographiques et politiques du futur État-nation, elles en font le cadre et la condition d'une société plus égalitaire et progressiste. L'un des objectifs de la rédaction est de susciter chez les lectrices un sentiment d'appartenance à la nation allemande. Donc, ça peut prendre la forme, par exemple, de nombreux articles qui ont pour sujet la géographie des pays allemands, l'histoire des pays allemands. Les correspondantes du journal, disséminées dans différentes régions allemandes, envoient des récits décrivant leur région, par exemple. De même, plusieurs textes rendent hommage aux empereurs germaniques ou bien aux héros des batailles anti-napoléoniennes. On voit donc à travers tous ces textes les lieux de mémoire qui sont mobilisés depuis le début du XIXe siècle pour constituer une culture nationale et qui se retrouvent magnifiés dans les colonnes du journal, qu'il s'agisse des légendes des Nibelungen, des Aigris de Goethe, des contes de la forêt allemande, par exemple. Les lectrices sont ainsi invitées à s'approprier ce patrimoine, d'autant plus que de nombreux textes valorisent le rôle que des femmes illustres ou méconnues ont pu jouer dans l'histoire et dans la culture allemande. Au passage, rappelons que la date de fondation de l'ADF est celle de l'anniversaire de la bataille de Leipzig, donc en octobre 1813, un événement très important dans les mythes fondateurs de la nation allemande, donc épisode des guerres de libération contre les armées napoléoniennes. Le choix de cette date permet bien sûr d'établir un parallèle entre émancipation des peuples et émancipation des femmes, mais aussi de revendiquer l'intégration des femmes à l'histoire nationale et à la nation en devenir. Neue Bahnen ne cesse donc d'inciter les femmes à se concevoir comme des citoyennes de la patrie allemande. L'expression « Deutsches Vaterland » revient régulièrement dans le journal. Donc, conserver et transmettre la culture germanique, s'impliquer personnellement et collectivement dans la construction d'un État-nation est présenté dans le journal comme la version moderne d'une féminité qui combine mission éducatrice de la femme et dévouement naturel à l'intérêt général, avec tous les guillemets qui s'imposent. En tant qu'organe de l'ADF, Neue Bahnen promeut l'organisation des femmes à l'échelle de l'Allemagne, c'est-à-dire dans tous les pays de langue allemande, et compte d'ailleurs, l'ADF compte des membres aussi bien en Prusse orientale qu'en Alsace, en Autriche ou à Hambourg. Plusieurs de ces membres servent de correspondantes au journal, donc ceci va permettre au journal de disposer d'un réseau d'informations assez étendu. Et il y a notamment une rubrique qui revient dans chaque numéro, qui s'appelle Blicke in die Runde, et qui présente donc un aperçu de tout ce qui se passe concernant les intérêts des femmes, aussi bien dans tous les pays de langue allemande et puis à l'étranger. Donc les lectrices sont invitées à dépasser le cadre de leur ville, de leur région, pour se sentir concernées en tant qu'allemandes. Et elles sont invitées aussi à porter leur regard sur ce qui se passe dans les autres pays. Donc cette rubrique les invite souvent à la comparaison avec les femmes étrangères, dans une démarche qui est assez ambiguë, qui est partagée à la fois entre la volonté de donner les femmes étrangères comme modèle à suivre, mais aussi l'idée est souvent de revendiquer une différence, voire une supériorité des femmes allemandes. À travers les discours tenus dans Neue Bahnen, on comprend donc que les rédactrices estiment indispensable de s'identifier avec la figure idéale de la femme allemande, afin d'obtenir une reconnaissance sociale et de mériter une extension de leurs droits. La guerre de 1866 donne lieu à de vibrantes affirmations sur le patriotisme des femmes qui sont impliquées dans l'ADF. Auguste Schmidt écrit ainsi « Nous sommes des femmes allemandes, nous devons de toute la force de notre âme nous efforcer à ce que la morale allemande, la fidélité allemande grandissent en nous et avec nous. » Et elle écrit ceci afin de justifier une meilleure instruction pour les filles et la participation publique des femmes. Mais c'est surtout la guerre de 1870 qui donne l'occasion aux rédactrices de Neue Bahnen de faire allégeance à la nation en redéfinissant leur identité de genre. À ce moment-là, les représentations de la femme allemande, aimante et pacificatrice, qui avaient été développées dans les années précédentes, donc ces représentations font place à des discours qui insistent sur la féminité patriotique, sur la femme gardienne de l'honneur national et qui soutient sans faillir les hommes combattant l'ennemi. Pour les Allemandes, qui revendiquent un statut de citoyenne dans la future nation, c'est le moment vraiment de prouver leur soutien indéfectible à la patrie. La plupart des rédactrices semblent à ce moment-là donc oublier leurs convictions démocratiques et pacifiques, afin, on peut supposer, de ne pas être suspectées de faiblesse ou de trahison envers la nation. Plus que jamais, la femme allemande est redéfinie par rapport à une représentation repoussoire de la femme française, qui sert vraiment, déjà auparavant, mais à ce moment-là plus que jamais, de contre-modèle à ce que est censée être une femme allemande. Donc la femme allemande étant, pour résumer, l'incarnation de la vraie féminité, en tout cas selon Louise Otto et ses co-rédactrices, alors que la femme française est, elle, plus du côté de la masculinité en raison de ses mauvaises mœurs. Et au moment de la victoire allemande, les rédactrices estiment sans doute avoir donné suffisamment de preuves de leur fidélité à la nation pour laisser publier un texte qui demande ouvertement l'égalité des droits politiques. L'auteur de ce texte, qui signe Mina K, donc prudemment avec une seule initiale et non son nom complet, démontre dans cet article que la nécessité de l'émancipation politique des femmes répond, dit-elle, aux efforts humanistes de l'époque. Elle estime en effet, dans son argumentation, que la Nouvelle-Allemagne est sur le point de devenir un État moderne et elle ose alors inclure la citoyenneté des femmes parmi les transformations politiques et institutionnelles imminentes. Son texte s'achève cependant par de prudentes réserves. « Nous ne voulons pas, dit-elle, de précipitation et nous nous en remettons au discernement des hommes. Conformément à la réserve et à la modestie qui sont l'apanage de la femme allemande, nous voulons commencer par faire de la propagande pour nous. » Persuadés que nous atteindrons sûrement notre but grâce à notre puissant allié, l'esprit du temps. nous allons au-devant de l'avenir avec pour devise « par le mérite, vers notre droit ». Ainsi, même ce texte, qui est le plus radical depuis la création du journal, indique clairement les limites que doivent respecter les Allemandes pour espérer être audibles. Toute revendication doit être accompagnée d'allégeance à la figure de la femme allemande. Est-ce que je suis encore dans les temps ? Je vais encore conclure. Non ? Je conclue. Donc, Neue Bahn permet de mesurer les contraintes dont les Allemandes doivent tenir compte afin de conquérir une existence publique. Leur stratégie d'alliance avec les travailleurs échoue, comme on l'a vu, se heurtant au refus de ceux-ci de remettre en question les rapports entre hommes et femmes. Le parallèle entre émancipation des travailleurs et émancipation des femmes a d'ailleurs ses limites, malgré l'emploi commun du terme de Selbsthilfe. Si les travailleurs aspirent à se libérer de l'oppression de classe en devenant des citoyens égaux, voire ordinaires, les féministes de Neue Bahn ne paraissent pas pouvoir remettre en cause leur assujettissement à la catégorie du féminin. Comment alors se libérer de l'oppression fondée sur le genre ? En ce temps de définition nationale, il leur faut en effet prouver leur appartenance à la nation, leur conformité au modèle national de la femme allemande, ce qui leur rend très difficile de se penser ou du moins de s'exprimer en tant qu'individu. Elles ne peuvent que chercher à redéfinir les identités genrées en arguant du progrès général de la société pour faire évoluer le rôle dévolu aux femmes. Et les tout derniers articles de l'année 1870 témoignent que les plus lucides d'entre elles, notamment Louise Otto, perdent déjà toutes leurs illusions quant à la nature du nouvel État allemand et à la place que les femmes y occuperont. Neue Bahn perdure encore comme organe de l'ADF jusqu'au début du XXe siècle, mais ce n'est plus là alors que se développent les nouvelles stratégies féministes. Dès les années 1880, c'est bien sûr la presse des femmes socialistes, et notamment Die Gleichheit de Clara Zetkin, qui incarne la radicalité des nouveaux combats du siècle. Voilà. Merci beaucoup.